Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et dès mardi soir prochain, cette petite musique va retentir dans le palais des festivals de Cannes. Le tapis rouge sera déroulé dans quelques jours pour cette 74e édition du Festival de Cannes en juillet, Covid oblige. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter les grands moments du festival depuis sa création jusqu'à la vie d'Adèle, en passant par Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Roberto Benigni. Bref, on va revivre tout ça ensemble à travers notamment les riches archives d'Europe 1. 14h30, on ouvrira notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Franck Dubosc qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors par exemple, quelle est la plus belle scène de cinéma selon lui ?
Dans Les Misérables, j'aime beaucoup la dernière séquence. Je trouve que c'est une des plus belles fins de cinéma que j'ai vues quand on ne sait pas comment, qui va tirer sur qui, le petit garçon ou le flic. Je trouve que c'est assez intelligent, très intelligent même de la part du réalisateur. Je choisissais qui va tirer en premier. Je trouve que c'était. Quand je suis sorti, je me suis dit mince, quelle fin!
Les Misérables, signé Lajli, que l'on avait découvert d'ailleurs à Cannes il y a quelques années. Et pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Franck Dubosc, c'est donc dans une demi-heure. Enfin, juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, faut-il aller voir Président avec Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois en François Hollande. Que vaut Teddy ? Nouveau film de genre français, une histoire de loup-garou, vous verrez ça. Catherine Froh est à l'affiche de La Fine Fleur, alors à découvrir ou pas, on vous le dira. Et puis on parlera aussi du nouveau film de Julie Delpy qui s'appelle My Zoé. Voilà pour le programme de votre Clap que vous pouvez également écouter en podcast. Abonnez-vous. Mais d'abord donc notre récit consacré au grand moment du Festival de Cannes.
Europe 1. Le récit.
Si Cannes est aujourd'hui le plus grand festival de cinéma au monde, il n'en a pas toujours été ainsi. Longtemps, la Mostra de Venise a représenté cette vitrine du cinéma mondial. En 1938, Hitler et Mussolini font alors pression pour modifier le palmarès et récompenser des films allemands. C'en est trop pour la France, qui décide alors de créer son propre festival qui se veut libre et indépendant. Elle est d'ailleurs soutenue dans sa démarche par l'Angleterre et les États-Unis. Le 1er septembre 1939 s'ouvre donc ce premier festival de Cannes. Sauf que deux jours plus tard, la guerre est déclarée. Il faudra donc en réalité attendre 1946 pour que le Festival de Cannes ait réellement lieu. Dès le début, les stars affluent pour monter ces 24 marches qui vont devenir mythiques. Des grands films sont représentés, comme Rome, ville ouverte de Rossellini.
Eh bien, Don Pietro, qu'est-ce qu'il y a ?
Rien de grave, grâce au ciel, pourvu que ça continue comme ça. Cette nuit, les SS sont allés chez Manfredi.
Oui, on me l'a dit. Mais où s'est-il caché ?
Il est chez toi. Il y restera pendant quelques jours.
Grâce à vous, nous avons pu élaborer notre réseau de résistance.
C'est mon devoir de secourir et de protéger les autres.
Le premier journaliste à couvrir l'événement s'appelle Angelo Macario. Et le premier prix d'interprétation sera attribué à la divine Michèle Morgan pour son rôle dans La Pastorale.
Veux-tu danser avec moi, Gertrude ?
Jacques, quelle idée !
Mais je te montrerai, tu verras, c'est très facile.
Personne ne m'a jamais fait danser.
Gertrude qui danse ? Ah, je vais voir ça.
J'avoue que ça vaut la peine.
Venez, pasteur.
Je mets une valse, c'est pour Gertrude.
Immédiatement, le festival devient un haut lieu du cinéma, un précurseur des tendances et des gens sur qui il faudra désormais compter. En 1966, c'est d'ailleurs un petit Français, jusqu'alors boudé par les critiques, qui sera récompensé à seulement 28 ans. Vous aurez reconnu Claude Lelouch et cette petite musique extraite de son film Un homme et une femme avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée.
Si j'ai bien compris, il est acteur.
Oui, enfin, pas tout à fait. Il n'est pas seulement acteur.
C'est un drôle de métier, c'est un cascadeur. Dites-moi, comment fait-on la connaissance d'un cascadeur ?
Vous savez, une rencontre, un mariage, un enfant, ce sont des choses qui arrivent à beaucoup de gens. Ce qui peut être original, c'est l'être quand même.
Et votre mari est original.
Et tout au long de sa carrière, on posera la question à Claude Lelouch, qui reviendra volontiers sur ce moment inoubliable. Écoutez-le d'ailleurs avec Jean-Louis Trintignant, au micro de François Jouffa sur Europe 1.
C'est la grande, grande surprise, c'est formidable. Quoi. Il y a Pierrot, Jean-Louis et Anouk autour de moi, on est fous de joie. Quoi. Tout ce que je sais, c'est que tous les gens de l'équipe ont fait le maximum pour faire ce film, à des conditions très basses. Quoi. Enfin, ça a été formidable quoi, de la part de Jean-Louis, d'Anouk, qu'ils ont accepté de faire le film dans des conditions qu'ils n'auraient jamais fait auparavant, je crois.
Vous vous attendiez à ce succès, Jean-Louis Trintignant ?
Eh bien sûr. Depuis le premier jour où Lelouch m'a raconté l'histoire, j'étais sûr que ça allait être énorme. Quand on connaît Lelouch, il vous emporte dans un tel enthousiasme, une telle folie comme ça qu'on ne peut pas ne pas marcher, ou alors on est complètement imbécile.
Les années 60 sont d'ailleurs des années qui ont profondément marqué l'histoire du festival. Des années riches, dans lesquelles le cinéma français notamment est admiré par le monde entier. En 1964, on voit débarquer sur la croisette celle qui va devenir la superstar internationale, Catherine Deneuve, qui sera d'ailleurs cette année encore sur les marches de Cannes. À l'époque, elle a seulement 21 ans et aux côtés de sa sœur Françoise d'Orléac, elle va commencer à écrire sa légende grâce à un film, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas ne pas j'amourrai, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas.
Et ce film, aujourd'hui devenu mythique, décrochera la Palme d'Or. Une Palme d'Or d'ailleurs assez controversée dans l'histoire de Cannes. Pour certains, ce film est avant tout une romance à l'eau de rose.
C'est un beau souvenir et ça a été vraiment un film très important parce qu'indépendamment de la réussite du film et du succès du film, c'est vrai que j'ai eu une révélation en faisant ce film avec lui. C'est-à-dire que lui, en tant que metteur en scène, m'a vraiment appris et dit des choses, oui, d'une certaine façon, oui. Donner confiance et puis appris des choses qui m'ont été, révélées que je n'avais jamais vues. C'est comme si j'avais été un peu endormie avant des choses que je ne voyais pas, des choses peut-être simplement parce qu'il a pris la peine de me les dire ou de vouloir réveiller. Oui, je ne sais pas.
Comme les princes dans les contes.
Tout à fait, moi je vois ça comme ça. En plus c'est un film musical, je vois ça comme un conte de fées. Oui.
Je vous le disais, les années 60 sont des années marquantes dans l'histoire du festival. Comme en 1967 par exemple. Cette année-là, Brigitte Bardot vient monter les marches au bras de son mari, Gunther Sachs. Mais la foule et les photographes sont hystériques. Et Bébé se retrouve coincé au milieu d'une émeute. Ce sera d'ailleurs sa dernière apparition. Cette hystérie parfois autour des marches de Cannes. Écoutez-la cette fois à l'occasion d'une montée de Catherine Deneuve.
J'ai vu Louman, Chapier. Lui, on l'a bien vu, Chapier, en revanche. Une coupe du tonnerre. J'ai cru entreapercevoir la robe de Catherine Deneuve au loin. On entend tout le monde hurler. On se demande pour qui vous hurlez. Ben non, ils savent pas. J'entends quelqu'un qui prend une photo. Ouais, je l'ai eu de face. Je lui demande qui. Il sait pas non plus. La foule, tout le monde se marche sur les pieds. C'est pire qu'une salle de concert. Bon, en poussant un peu, on aurait peut-être pu passer plus près des barrières, mais c'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que c'est celui qui pousse le plus fort qui voit le mieux. Non, mais c'est bien.
Alors Cannes devient très vite la vitrine du glamour, mais aussi une tribune politique. En 1968, par exemple, tout se passe comme si de rien n'était, le tapis rouge est prêt, on attend même Grace Kelly, Anouk Aimée. Sauf qu'à Paris, la révolte étudiante gronde.
Je vous disais que je me suis mis légèrement à l'abri des gaz lacrymogènes, car il y a quelques instants, je le répète, un peloton de CRS descendant le boulevard Saint-Michel et passant devant les barricades qui sont au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Gay-Lussac ont lancé des grenades lacrymogènes en direction ces barricades.
Et certains cinéastes veulent participer à ce mouvement révolutionnaire, notamment à cause de l'éviction récente de Henri Langlois, le patron de la Cinémathèque. Certaines projections sont décalées et Alain Delon fait savoir qu'il refuse cette grève illimitée qui s'annonce dans le milieu du spectacle.
Nous, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Jacques Dacmine, Raymond Jérôme, refusons le mot d'ordre de grève illimitée lancé par le Syndicat français des acteurs. Nous sommes persuadés que la grève illimitée du spectacle ne servira en rien les intérêts professionnels des manifestants, les activités du spectacle n'étant pas vitales à la vie de la nation. Nous proposons une reprise totale des spectacles. Nos cachets, dans les conditions actuelles, devant servir à alimenter un fonds d'aide aux familles des travailleurs en grève.
Le délégué général de l'époque, Robert Favre-Lebret, résiste à la pression de certains cinéastes. Son objectif à lui, assurer la poursuite des projections, en raison bien sûr des gros coûts économiques déjà engagés. Le festival sera finalement annulé, à la grande déception de ceux qui étaient en compétition, comme Milos Forman ou encore Carlos Saura, dont la projection de Peppermint Frappé sera tout simplement annulée. Mais le festival n'est pas qu'une tribune politique où s'exprime la colère, le ras-le-bol. C'est aussi un endroit pour faire avancer certains combats, certaines causes. Et pour cela, quoi de mieux que de les faire porter par une immense star? C'est ainsi qu'en 1985, la grande Elizabeth Taylor, célèbre notamment pour son rôle de Cléopâtre, monte les marches.
Quelle est la cause de ta colère? Que j'ai traité avec Octave comme je pouvais ou que j'ai épousé sa sœur pour traiter? Jalousie ou politique, laquelle?
Toutes les deux! Et maudit sois-tu de ne comprendre ni l'une ni l'autre!
Il ne m'est pas venu à l'idée de te demander des instructions!
Et c'est pour cela que tu reviens enchaîné à Octave comme un esclave!
Esclave!
Et par la plus élégante, la plus exquise des chaînes! Si doucereuse, si mielleuse, si vertueuse!
Sur place, les spectateurs n'en reviennent pas.
Elizabeth Taylor!
Super!
Je l'avais vue quand elle était jeune, mais là, elle n'a pas tellement changé, elle est toujours aussi belle. Ben, elle a des très beaux yeux. Hein.
Elle n'a pas salué, mais elle a souri. Elle a fait coucou, mais tout au sommet des marches.
Il y a longtemps que vous attendiez pour la voir?
Oh là, oui.
4 heures.
Ouais, et on a des crampes.
Et c'est le début des années sida. On découvre peu à peu cette maladie qui tue des milliers de gens chaque année. Cannes organise alors une soirée caritative contre le sida, parrainée par Elizabeth Taylor, justement. Le président François Mitterrand lui remet même au passage la Légion d'honneur.
Le drame que représentent les grandes épidémies qui ravagent de façon cyclique l'humanité, voyant poindre de nouveaux maux et de nouveaux chagrins. Vous avez décidé d'y consacrer beaucoup de votre temps.
Des femmes, des actrices qui, sur le tapis rouge, sont souvent scrutées pour leur tenue notamment, mais qui sont bien moins souvent représentées au palmarès, sauf en 1993. Jane Campion obtient la Palme d'Or pour sa leçon de piano. C'est Jeanne Moreau qui annonce le résultat.
Alors, Monsieur le Président, qui a la Palme d'Or?
Alors, vous allez m'écouter attentivement parce qu'il y a un ex-aequo.
Ah.
Entre le piano de Jane Campion et la deuxième palme d'or est attribuée à Adieu ma concubine de Chen Kaige.
La leçon de piano, un film qui se veut résolument féministe.
Je voudrais faire un échange.
Entre quoi?
Le piano.
Elle dit que c'est son piano, elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe, il ne sait pas lire et il est ignorant.
Nous sommes une famille maintenant, nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai.
Je voudrais qu'on fasse un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez.
Jane Campion qui reste à ce jour la seule femme à avoir reçu une palme d'or à Cannes. Évidemment, elle était ravie et d'ailleurs dans la catégorie des gens qui n'en reviennent pas de leur prix, il y a aussi Roberto Benigni. En 1998, il obtient un grand prix pour son film La vie est belle. Fou de joie sur scène, il n'hésite pas à baiser les pieds du président d'alors, un certain Martin Scorsese.
Encore, mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ces moments. Et je n'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Et j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est? Merci. Merci, je vous aime beaucoup.
Roberto Benigni, qui ce jour-là a même éclipsé le vrai gagnant de la Palme d'Or, Théo Angelopoulos, avec son film L'éternité et un jour. Alors les surprises à Cannes, évidemment, ça ne manque pas. Comme cette année fameuse de 2013, Abdelatif Kechiche présente La vie d'Adèle, l'histoire d'une lycéenne, interprétée par Adèle Exarchopoulos, qui découvre la passion amoureuse avec Emma, une jeune femme un peu plus âgée qu'elle. Elle est interprétée par Léa Seydoux, qui sera d'ailleurs présente dans 4 films cette année sur la croisette.
Fallait me dire que t'étais rentrée, je suis allée boire un verre avec des collègues, juste après le taf. Pourquoi tu m'as pas appelée?
On t'a accompagnée?
Ouais.
Ouais. Qui ça?
Une collègue.
Ah, une collègue?
Ouais.
C'est qui ce mec?
Qui?
Le mec qui t'a accompagnée ici.
Ah, c'est rien, c'est un collègue.
Tu me prends pour une conne?
La croisette s'enflamme devant ce film, devant cette passion amoureuse et sa longue scène de sexe. Sean Penn, alors président du jury, est sous le charme. On connaissait les palmes ex aequo. Il crée, lui, la double palme pour la première fois dans l'histoire du festival, le metteur en scène et les deux actrices remportent conjointement le prestigieux trophée. Écoutez Abdelatif Kechiche et Adèle Exarchopoulos au micro d'Europe 1.
Une palme partagée en trois, oui. On est heureux pour nous, pour ceux qui ont travaillé pour le film et nos proches. C'est toujours un moment fort où quand des gens de la profession se réunissent et s'accordent à dire que votre travail vaut le coup, ça aide à continuer. Adèle est une femme libre, qui n'est pas dans les préjugés, qui n'est pas fermée à aimer librement. Elle ressemble beaucoup à cette jeunesse que j'observe en France.
C'était la meilleure des écoles et le film le plus... Pas important parce que chaque film est important, mais le film où j'ai le plus donné de moi-même, où j'ai le plus eu l'occasion de donner et où j'ai été dirigée d'une manière spéciale. Moi, j'avais toujours peur des scènes où je pleurais. Je me disais, mais je vais plus y arriver. Ça fait 5 mois que je pleure. Je vais jamais réussir à pleurer encore. C'est impossible. Je vais pas pouvoir la faire 60 fois d'affilée. Et à la fin du tournage, Adèle, il tapait dans ses mains et je pleurer quoi.
La vie d'Adèle que je vous conseille de voir ou revoir, ça reste un grand moment de cinéma. Voilà pour notre récit spécial Cannes première partie. La semaine prochaine, on s'intéressera aux grands scandales qui ont marqué la croisette. Dans un tout petit instant, on reprend le fil classique de nos émissions puisqu'on retrouve les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Franck Dubosc qui a accepté de nous raconter ses plus grands souvenirs de cinéma. Mais pour clouter ce récit, je vous propose d'écouter Le tourbillon de la vie, chanté par Jeanne Moreau et Vanessa Paradis. C'était en 1995. On s'en souvient.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix, ici ton mange là. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. De femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai vu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait tout. Sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.
Jeanne Moreau et Vanessa Paradis avec leur tourbillon de la vie sur la scène de Cannes après notre récit consacré au festival. Dans un tout petit instant, vous restez avec nous puisqu'on recevra Franck Dubosc pour les films de ma vie. Il va nous raconter et nous conter ses plus grands souvenirs de cinéma. A tout de suite.
Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, et on va vous le raconter pendant tout l'été. J'accueille maintenant Franck Dubosc, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là à l'occasion de la sortie en salle il y a quelques jours du Sens de la famille. Alors le pitch est assez simple, une famille, vous êtes le papa, Alexandra Lamy la maman, trois enfants, et un matin, chacun se réveille dans le corps de l'autre. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça va quand même donner des situations forcément assez cocasses.
Oui, c'est pas une soirée échangiste, hein, c'est pas... oui, oui, il y a même la grand-mère d'ailleurs.
Et il y a la grand-mère, c'est vrai, oui.
Oui, chacun se... l'âme de chacun se réveille dans le corps de l'autre. C'est-à-dire je deviens sur le premier jour ma petite fille de 7 ans, et je suis moi l'adulte papa dans le corps de la petite fille de 7 ans. La petite fille de 7 ans est la maman à ce moment-là, je ne sais plus trop, parce qu'on rechange encore.
Toutes les nuits, ça rechange.
Toutes les nuits, ça change. Même nous, on est paumés. Oui, oui, parce que c'est pas l'histoire du film, en fait, le fait qu'on change de corps. Le film a une histoire d'une famille qui ne s'entend plus du tout. Un père qui est en train de perdre son boulot, en train de perdre sa famille, en train de perdre, plus personne ne s'écoute. La mère qui a un amant... les gosses, le jeune ado qui commence à fumer des joints, la jeune fille. Et puis tout à coup, voilà, il change de corps, ce qui fait ça un petit peu pour dire, mais mettez-vous à la place de l'autre et vous verrez ce que ça fait. Et ils vont se reconstruire finalement en découvrant un petit peu ce que l'autre sent, mais tout ça sous. Oui, avec une vraie histoire, c'est ce qui fait la comédie en fait.
Il y a des moments où on aimerait bien changer de famille, mais il faut faire attention à ce qu'on souhaite.
Mais vous vous rendez pas compte en fait. On a transféré nos esprits dans le corps de quelqu'un d'autre.
Mais qu'est-ce que je fous dans ton corps?
Si on va à l'hôpital, on va tous finir comme des cobayes sur une table en inox.
Il n'y avait plus qu'à se cacher et attendre que ça passe. Mais non, c'est devenu encore plus compliqué.
Elle fumait. Elle avait des seringues sur elle.
Non, ça c'est normal, sa mère est infirmière.
C'est pas où sa mère?
Ah si, bien vu.
Allez, on y va, moi je peux plus de ce corps.
Chacun découvrira le sens de la famille. Est-ce que vous êtes prêt pour notre questionnaire?
Prêt.
Allez, c'est parti. Votre meilleur souvenir de cinéma, Franck Dubosc?
Ça pourrait être Titanic.
Ah oui, ouais. On l'a cité il n'y a pas longtemps. Ouais. Benjamin l'avait, je crois, m'a cité ouais. Ce film aussi.
Oh, c'est pas très original, parce que ça reste quand
même... Non, mais...
Et pourtant, je me souviens, Titanic, j'y étais allé avec ma petite copine de l'époque, et j'étais le premier dans la file. Il y avait une longue file, bon, sans doute. Et elle est arrivée en retard, on est passé les derniers, on est arrivé. Donc j'ai vu le film au premier rang, tout à droite, collé à l'écran. Et donc, avant que le film ne commence, je me suis dit, je vais me faire chier, je ne supporte pas ça.
Faites un voyage dans le passé, à la recherche d'un secret enseveli au fond de la mer.
Nous allons en Amérique.
N'approchez pas! Je vais sauter!
Non.
Je t'interdis de revoir ce garçon.
Je suis le maître du monde!
Et en fait, j'ai complètement oublié, et parce que le film fait tout oublier. Je pense que c'est mon meilleur.
Et votre pire souvenir en salle?
J'ai pas beaucoup de pires souvenirs, parce qu'à partir du moment où je suis allé voir un film, en général, j'y vais assez rarement, et j'en sors satisfait d'être allé voir un film de cinéma, réellement, hein. Il n'y a pas de démagogie là-dedans.
Ouais, même si c'est un peu ennuyeux.
Ouais, parfois, quand j'entends les gens qui critiquent les films, à tort ou à raison, hein, je me dis toujours, mais mince, et le petit plaisir d'avoir vu de bout en bout, même s'il y a parfois des merdes, et j'en ai fait.
mais, je ne vous demanderai pas lesquelles.
Non, mais il y a quand même un souvenir de cinéma. Il n'y a pas de film où j'ai eu envie de sortir au milieu, parce que j'ai toujours eu envie d'aller au bout, et puis j'en ai toujours tiré un petit plaisir malgré tout.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
La plus dingue, c'est pas dingue, mais c'est la plus jouissive, c'est la projection de Tout le monde debout à l'Alpe d'Huez. Parce que là, c'est personnel, c'est parce que c'est mon film.
C'est la première fois que vous montriez votre film au public.
Au public, je suis assis dans la salle, je ne sais pas trop si ça va plaire. C'est la première fois que j'ai réalisé, que j'ai écrit, j'ai joué, j'ai dirigé, j'ai fait tout ça. Et j'ai le monsieur de la technique de la salle qui vient juste me glisser dans l'oreille. Est-ce qu'on peut monter le son? On n'entend plus les répliques. J'ai flatté au maximum, j'ai fait monter le son au maximum.
Parce que je dois le dire, j'étais dans cette salle à ce moment-là et qu'effectivement le public a très bien réagi, riait beaucoup et voilà.
C'était une belle projection pour moi et puis surtout c'est la première fois que j'ai reçu et peut-être la seule d'ailleurs, des compliments pour mon travail de cette façon-là, c'est-à-dire des compliments réels. Genre, j'en ai fait des films qui ont fait des succès ou quoi, où c'était c'est bien, hein, c'est bien. Là, il y avait quelque chose. Je me souviens, je suis rentré à l'hôtel, les gens passaient à côté de moi pour me complimenter. Je suis même rentré assez vite dans ma chambre pour savourer et pour éviter d'en avoir un mauvais derrière.
Ah, je vois que vous faites attention à votre ligne.
Oui, je prépare un marathon.
Un marathon?
Oui, en spectateur. Je préfère être en forme pour tenir toute la journée. Puis surtout, je suis moins lourd à pousser. Et donc vous êtes auxiliaire de vie, c'est ça?
Oui. Et vous travaillez?
Ah bah non. Moi, je peux pas, je suis handicapé.
Bah, et alors, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on fait rien? Vous êtes marié?
Ah non.
Moi, je suis pas très mariage non plus. Je préfère des relations éphémères. Pas d'attache, pas de projet, pas de faux espoirs.
Banco. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir, je vais à la patinoire avec des potes.
Ouais, la patinoire, moi, je suis pas de maître.
Non, mais de toute façon, on y va entre jeunes. Donc...
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma? Vous avez peut-être découvert à la télé.
La planète des singes, le premier. Ouais, avec Charlton Heston. Ouais, j'aurais aimé voir ça au cinéma. Pourtant, j'aurais pu parce que. Mais c'était interdit au moins de 14 ans, je crois, ou 13 ans à l'époque. Je ne sais plus quel était le. Et je devais avoir un an de moins ou quelque chose comme ça. Et je me souviens de notre voisin qui, lui, avait 2 ans de plus que nous, de tous les copains, et qui avait eu le droit d'aller voir La planète des singes. Voilà, c'est un de mes films préférés et j'aurais adoré le voir sur un grand écran. Ouais.
Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Oui, ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme.
Quelle est la plus belle scène de cinéma selon vous, Franck Dubosc?
Dans Les Misérables, j'aime beaucoup la dernière séquence. Je trouve que c'est une des plus belles fins de cinéma que j'ai vues quand on ne sait pas qui va tirer sur qui, le petit garçon ou le flic. Je trouve que c'est une belle séquence.
Violente.
C'est violent, mais je trouve que c'est un parti pris ou un non-parti pris, j'en sais rien, mais de justement assez... assez intelligent, très intelligent même de la part du réalisateur. Mais voilà, je choisissais qui va tirer en premier. Je trouve que c'était quand je suis sorti, je me suis dit mince, quelle fin.
Et finalement qui, on se dit?
Eh ben chacun ça. Choisit, ouais. Je crois.
Je fais pas le con, Issa, s'il te plaît, pose ça. Écoute-moi, Issa, pose ça. Écoute-moi, Issa.
Pour finir, Franck Dubosc, la bande originale qui a marqué votre vie?
La fièvre du samedi soir. Ah oui.
Ça vient tout de suite.
La fièvre du samedi soir, c'est la musique, ça m'a hanté pendant des années et des années. C'est le film musical qui m'a le plus marqué. C'est marrant parce que c'est ce film-là, c'est la première fois, on parlait de premier cinéma du petit frère d'une copine avec qui on était allé voir le film. Et c'est la première fois qu'il est allé au cinéma, il est rentré, on s'est assis, les publicités ont commencé, puis la lumière s'est rallumée avant le film, ça marchait comme ça avant. Et là, il s'est levé, il a dit, c'est court, hein. Je crois que c'était la fin. Je me souviendrai toujours de ça.
14h, 15h sur Europe 1, clap. We'll be right back.
Merci beaucoup Franck Dubosc d'avoir joué le jeu de ces films de ma vie. Je rappelle à nos auditeurs donc en salle Le sens de la famille, qui est une de ces comédies familiales pour le coup de l'été. Pas hésiter à aller le voir en un jour pluvieux ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes en vacances, parfois on va au cinéma quand il y a quelques gouttes de pluie, ben voilà, ça fait partie des films que vous pouvez aller voir. Et donc, en janvier, votre deuxième film en tant que réalisateur.
Ouais, le 26 janvier, Rumba la vie.
Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'être venu dans le studio de Clap. On aura l'occasion de reparler de ce film.
Ben oui, j'espère.
Nous, on se retrouve dans un instant, le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et puis, on va débattre ben justement des films sortis en salle. Mercredi dernier, on va vous donner plein de conseils de bons films à aller voir. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et c'est maintenant l'heure de débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Avec aujourd'hui autour de la table Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Bonjour Mathieu.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien. Et vous ?
Bon, ça va, ça va. On prépare Cannes. On y sera d'ailleurs les amis dès la semaine prochaine pour des émissions spéciales, donc soyez bien à l'écoute. Alors aujourd'hui, on va débattre de Président d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois notamment. On parlera aussi de Teddy, de My Zoé, de Julie Delpy et de La Fine Fleur portée par Catherine Froh. Mais d'abord, Président, nouveau film d'Anne Fontaine. Toute ressemblance n'est pas forcément pure coïncidence.
S'il vous plaît, Monsieur le Président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche.
Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme.
Macron, ça vous fait plus rien ? La trahison, l'humiliation, tout ça ?
Rien du tout. Pas ça. Ah, merde !
Fight ! On commence à créer un parti. On fait la campagne, et je suis... Et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà. En gros.
Et en plus, c'était génial, votre truc du président normal. Ça veut absolument rien dire. Et en même temps, c'est évident.
C'est pas resté évident très longtemps.
Voilà, vous avez sans doute compris, nous sommes donc en présence de Jean Dujardin qui joue une sorte de Nicolas Sarkozy, de Grégory Gadebois qui joue une sorte de François Hollande. Nicolas Sarkozy retiré de la vie politique, qui n'a qu'une envie, c'est de revenir pour sauver la démocratie. Je vous passe les détails, vous découvrirez pourquoi. Et il va donc aller retrouver François dans sa Corrèze chérie. Ensemble, ils vont décider de s'allier. Il y a aussi, je trouve, un rôle intéressant des deux femmes. On va y revenir. Mais est-ce que vous, ce film vous a plu ?
C'est drôle, c'est très comique, c'est un film sympathique.
Bon, il y avait des moments sympathiques, mais sans plus, c'est pas non plus un film qui me marquera.
Ah, j'ai adoré, les deux acteurs sont vraiment formidables et c'est un très bon moment de divertissement, vraiment.
J'ai trouvé que c'était assez fin, pas caricatural, et qu'ils sont tous les deux juste ce qu'il faut d'imitation, un tout petit peu, sans caricature.
Je trouve que Gadebois représente plus Hollande que Dujardin, mais bon, c'est bien eux dans toute leur splendeur.
La morale de l'histoire, c'est que finalement, c'est une femme qui peut prendre le relais, quoi. Voilà.
Oui, alors ça, c'est bon, ce qu'on découvrira dans le film. C'est amusant ce que disait cette spectatrice quand elle dit « Gadebois est plus crédible en Hollande que Dujardin en Sarkozy ». Et pourtant, on a l'impression que Dujardin cherche plus à imiter Sarkozy. Marilyn Letertre, président.
Eh bien, je suis assez d'accord avec elle. En fait, Dujardin le fait bien, mais il est vraiment dans le mimétisme.
C'est ça.
Il recherche la gestuelle, l'éthique. Et on a un peu l'impression d'être face à un sketch, alors que Gadebois, il est tout en subtilité, il est en évocation et pas du tout dans le mimétisme. Et pour le coup, je trouve ça, moi, plus fin et plus impactant. Oui. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'aime beaucoup le film. J'avais de grosses craintes avant d'y aller, pour être totalement honnête. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Déjà, c'est une comédie... c'est pas une comédie sur la politique. C'est une comédie sur la difficulté de lâcher le pouvoir. Et c'est ça qui est assez malin, parce qu'on voit ces deux mecs, en fait, qui... de façon très très différente, en fait, elle n'arrive pas du tout à larguer les amarres. Et ce qui marche très très bien aussi, c'est que elle pose un regard assez tendre finalement sur eux. Et c'est peut-être ce à quoi on ne s'attendait pas, parce que finalement, ces deux types, on se dit que dans un autre contexte, presque ils pourraient être copains. Et voilà, ils finissent par s'écouter. Enfin, je vais rien dévoiler, mais voilà. Et moi, je trouve ça beaucoup plus fin que ça n'en a l'air, et notamment dans la représentation effectivement des personnages féminins.
Oui, c'est un Carla film de Carla Bruni et de Madame Hollande.
Voilà, exactement. C'est un film féministe sans en avoir l'air et sans pousser le bouchon trop loin. Et puis qui est pas non plus dans une espèce de naïveté. On nous montre bien que le pouvoir, il peut un peu attraper et bouffer tout le monde. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne surprise, une bonne farce. Et j'ai passé un moment hyper agréable et c'est très malin et très bien écrit surtout.
Emballé Marilyn par Président Fabrice.
Moi, je trouve pas que Jean Dujardin soit vraiment dans le mimétisme.
Oh bah enfin.
Je trouve qu'il amène vraiment quelque chose. Mais oui, mais comme Gadebois imite aussi, reprend la bonhomie de Hollande. Ils se servent,
mais ça, c'est parce que tu parles du physique.
Ils se servent chacun de la base pour aller vers autre chose. Moi aussi, j'avais peur en allant se voir ce film parce que voilà, je me disais oula, oula, oula. Et non, pas du tout. C'est une analyse politique de ce qui se passe actuellement qui est très, 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 très fine, très humaine. C'est vrai que l'idée de se dire que Sarko et Hollande pourraient un jour se retrouver pour sauver la France, c'est déjà une idée géniale qui pourrait peut-être arriver.
Écrite et tournée pendant le confinement.
Ouais, et vraiment, c'est finement écrit. Il y a une analyse politique, il y a une analyse de la société qui est très forte, très touchante aussi, parce que les deux amènent beaucoup d'humanité à tout ça. Je trouve que Sarko est un peu plus caricaturé que Hollande, mais la farce, la satire, le pastiche marche vraiment. Vraiment étonné par ce film, assez séduit par ce film, par les deux acteurs, par le travail d'Anne Fontaine. Ouais, vraiment, là, pour le coup, oui.
Bon, ben voilà, président.
Vous êtes étonné.
Je pensais pas que vous alliez aimer tous les deux à ce point-là. Moi, j'ai un petit peu plus de réserve, mais notamment justement sur le fait qu'ils essaient d'imiter plutôt que d'évoquer. Mais bon, voilà, hein, pourquoi pas. Après tout, aller découvrir président.
Vous ne trouvez pas qu'ils sont touchants? Ils sont vraiment touchants.
Ils sont touchants, mais je trouve
c'est vraiment
que
tendre,
parfois,
en fait.
C'est un peu too much. Mais voilà, hein, chacun son avis. Président, signé Anne Fontaine, c'est la fête du cinéma, les places sont pas chères, profitez-en. Deuxième film dont on débat aujourd'hui, c'est Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma, porté notamment par Anthony Bajon.
Hey, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive.
Ah, le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent.
T'avais fumé un peu quand même hier?
Non.
T'es sûr?
On a pris des champis avec ma copine, mais on en prend souvent.
M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir.
C'est drôle ça.
Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même.
Nous sommes donc dans les Pyrénées, le village est inquiet car un loup rôde. Anthony lui mène une vie de gamin un peu paumé, il vit avec son oncle, travaille dans un salon de massage et d'épilation. Il sort avec Rebecca qui passe son bac, ils sont plutôt heureux tous les deux, sauf qu'un soir... Eh bien, il est griffé par une bête étrange et petit à petit, vous me voyez arriver, les semaines passent et Teddy va être pris de pulsions animales. Film interdit aux moins de 12 ans, en même temps très drôle à certains moments, c'est toute l'ambiguïté de ce film. Est-ce que vous, ça vous a plu?
Ah bah, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un univers complètement décalé et je trouve que c'est rare dans le cinéma français.
Un film très original en fait, très bien joué. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal.
Ah, j'ai trouvé ça extrêmement bien. J'étais agréablement surpris.
Moyennement convaincu. Ça commence bien, c'est rigolo, mais disons que j'ai été déçu par comment il développe la chose.
Moi, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le film de l'année. Je trouve que c'était un film un peu pour ados.
Alors, je m'attendais pas du tout à ce genre de film, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et ça m'a même ému. En fait, j'ai trouvé la fin très émouvante.
En termes de photographie, c'est vraiment exigeant, je trouve.
C'était vraiment extraordinaire.
Bon, public mitigé plus, on va dire. Pourtant, t'as dit voilà, une bonne campagne de presse. Les journalistes semblent avoir aimé. Fabrice Leclerc.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va arrêter de tartiner sur le retour du cinéma de genre en France.
Après la nuit.
Nous tous, ça fait à peu près 6 mois, 1 an qu'on écrit tous la même chose. C'est vrai qu'avec le confinement, la nuée sort, Teddy sort quasiment en même temps, alors qu'il devait sortir à des périodes différentes.
Et Titane bientôt,
dont on reparlera à Cannes. Je l'espère en tout cas. Non, écoutez, moi je trouve que voilà, faire d'un film de loup-garou, donc du genre total, une comédie sociale à la française, parce que c'est aussi un film sur la province, sur les petites villes, un film sur la vie, sur la vie des gens d'en bas, comme on dit. Tout cela est mêlé de manière assez géniale. Il y a un goût pour le cinéma de genre, il y a plein d'idées. Moi je suis vraiment conquis par ça. Après, oui, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas forcément le film que peuvent attendre les fans de films d'horreur, par exemple, parce qu'ils vont être, ils vont rester un peu sur leur fin. Tout est suggéré, tout est évoqué, amené. Vraiment, c'est une vraie découverte de deux grands metteurs en scène en plus.
Marilyn Teddy.
Ah, moi, je trouve ça hyper jubilatoire. Pareil, c'est pas forcément le film de l'année, mais ça joue avec tous les codes du genre et très subtilement, c'est-à-dire que ça cherche pas à multiplier les effets. Mais il y a 2-3 trucs qui évoquent, même la mouche, enfin des petites choses comme ça, et c'est vraiment bien foutu. Et c'est surtout twisté avec énormément d'humour. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri. ce à quoi on s'attend pas forcément en allant voir le film, en lisant le pitch. Effectivement, il y a ce petit côté aussi où on dépeint la France d'en bas, comme ouais. disait Fabrice, qui est presque, on pense un peu à Bruno Dumont ou dans le ton. Et surtout, il y a Anthony Bajon, qui est le héros, oui. qui joue Teddy, et qui est vraiment un jeune acteur formidable. Et qui surtout ici sort un peu de sa réserve. On l'a vu dans des films où il était très dans la timidité, dans la pudeur. Et là, il a un rôle beaucoup plus extraverti, toute proportion gardée, mais voilà, où on le voit très différent. Et ça confirme que c'est un acteur de grand talent dont on va entendre parler à nouveau, je pense.
J'aime bien ce que dit Marilyn, c'est un peu, en fait, Bruno Dumont qui rencontrerait John Landis.
Oui,
dites-donc, rien que ça.
Non, mais si.
Mais c'était belle référence. Teddy, de Ludovic et Zoran Boukerman, on s'est parlé de président d'Anne Fontaine. Vous restez à l'écoute. Dans un tout petit instant, on va débattre de My Zoé. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé et de la fine fleur portée par Catherine Fro. À tout de suite.
Clap, Mathieu Charrier.
Clap, dernière partie. On débat toujours des films sortis en salle mercredi dernier, toujours avec Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Et après vous avoir conseillé président et Teddy, on en vient à My Zoé, signé Julie Delpy.
Every couple goes through difficult times. They work it out, especially when they've got a kid.
Sweetie, Zoé!
Julie Delpy qui est Isabelle, généticienne, qui vient de se séparer avec du papa de sa fille Zoé, on l'entend, lui s'appelle James, il a du mal à l'accepter cette séparation. Il lui mène la vie un peu dure au quotidien, mais voilà, Isabelle avance, rencontre un nouvel amoureux, tente de relancer sa carrière, lorsqu'un matin, sa fille Zoé donc ne se réveille pas. Elle est hospitalisée pour un traumatisme crânien. Je vais arrêter mon résumé ici, mais je vous dis simplement que derrière, eh bien, on va suivre le combat d'une femme pour son enfant, bouleversant. Ça va vous retourner le bide et surtout vous questionner sur pas mal de questions éthiques. Je n'en dirai pas plus et j'aimerais qu'on garde le petit secret parce que je ne veux pas qu'on spoil le film. Qu'en avez-vous pensé ?
On ne s'attendait pas à ça.
C'est un film un peu bipolaire, bicéphale.
C'est un beau film, mais c'est un film difficile à regarder.
C'était quand même un très beau film, hein, surtout sur le deuil. Hein.
J'ai trouvé ça très émouvant sur un sujet difficile.
J'ai beaucoup aimé la première partie, surtout qu'il y a une dimension un peu de thriller. Tout n'est pas dit, tout est plutôt suggéré. La deuxième partie m'a un petit peu moins intéressé.
J'aime beaucoup Julie Delpy. Alors je ne m'attendais pas à ça, donc j'étais un peu surprise par la tonalité du film, parce qu'avant c'était plutôt des comédies.
Comme on est mères toutes les deux, on était en train de se raconter nos frayeurs quand on avait nos enfants petits, et on comprend parfaitement. Hein.
Voilà, je ne m'attendais pas à ça, c'est ce qui ressort beaucoup de ce film, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça, et pourtant je trouve que ça vaut le coup d'aller le voir My Zoé. Marilyn.
Alors on ne s'attend pas à ça, parce que je pense que les gens pensent comédie quand ils pensent Julie Delpy, mais elle avait fait La Comtesse, qui était un film super sombre et totalement assumé. Et finalement, ce n'est pas si surprenant qu'elle assume un sujet aussi grave que celui du film. Moi, j'aime plutôt parce que justement, c'est une réalisatrice singulière qui s'essaye à beaucoup de genres. Alors, il y a un petit côté un peu bordélique. Elle explore beaucoup de pistes et donc ça perd un peu. Le film est effectivement en deux parties. À la fois, c'est le portrait d'une mère. Une mère, on va dire, jusqu'au boutiste, sans révéler le secret du film.
On marche sur des œufs quand même avec ce film, parce qu'il ne faut pas en parler.
Oui. Non,
pas,
mais c'est ça, révéler, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué.
En gros, ça nous questionne
ouais, effectivement, sur jusqu'où est-on prêt à aller par amour pour son enfant.
Exactement.
Et c'est aussi un film sur le couple. Un couple qui s'est terminé, comment l'amour peut devenir haine au sein du... Et peut se transformer en mauvaise foi totale, puisqu'on voit que... Personne n'est tout blanc ou tout noir. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, mais déstabilisant. Et je pense que ça laissera peut-être certains à la porte.
Sans doute. Mais ceux que ça laissera pas à la porte, je pense, en sortiront vraiment bouleversés. Fabrice.
Je suis assez d'accord avec Marilyn parce qu'il y a 5 ou 6 films dans ce film-là. Il y a le film sur une femme, sur le fait, sur le rapport à l'enfant, sur la perte de l'enfant, comment on vit tout ça. Les relations hommes-femmes, et ensuite, vous l'avez compris, le film part dans autre chose. Et je pense que le film, à force de partir là où on ne l'attend pas et d'aller explorer des travées qui sont intéressantes, qui sont séduisantes, moi j'attendais le twist. Il y a un moment, je ne l'attends plus parce que j'ai eu trop de propositions, j'ai eu trop de choses. Et moi, ça me déconnecte un peu du film. Donc, ouais. Je trouve que le film, il y a de belles idées, il y a une vraie envie de raconter quelque chose de singulier, très particulier. c'est un peu le foutoir.
Et il faut oser aller jusqu'au bout de cette démarche et de ce qu'elle
veut. Oui, il y a une audace, il y a une vraie
elle
audace.
Il y a une audace, il y a une mise en scène, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu bordélique.
Oui, oui.
C'est tout.
Allez vous faire votre avis. My Zoé, signé Julie Delpy. On va finir de façon un petit peu plus légère avec La fine fleur de Pierre Pinault, portée par Catherine Frou.
Bonjour Madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné.
C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Si on ne redresse pas, je ferme.
Vous allez rebondir, Madame Vernet. Il y a sans doute des solutions.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme solution ?
Je viens pour vous employer.
C'est une erreur, là.
C'est moi qui vous ai contacté.
Vous leur avez dit qu'on pourra pas les payer.
Ils sont en insertion, mais c'est beaucoup moins cher.
Pourquoi on se fait chier avec des rosiers, là ? Il y a des serres partout, on a juste à faire pousser de la beuh et c'est bon ?
Non, on va rester sur les roses.
Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Fermez pas systématiquement la porte quand on vous tend la main.
Ils sont trop le faux plan, là.
On redressera pas. On redressera !
Voilà Catherine Frou qui est donc Ève Vernet, gloire déchue puisqu'elle fut il y a quelques années la plus grande créatrice de roses, puisqu'on apprend dans ce film que voilà, les roses sont en fait des mélanges de toutes sortes et des assemblages de toutes sortes de roses. Sauf que son exploitation est au bord de la faillite, son concurrent c'est Vincent De Dienne est sur le point de la racheter, rien ne va plus. C'est alors que son assistante historique s'appelle Vera, lui colle dans les pattes trois employés en insertion, ça coûte moins cher, il n'a aucune compétence si ce n'est l'envie de s'en sortir et tous les quatre vont alors tout faire pour sauver la roseraie d'Ève. Évidemment, c'est un feel-good movie. Évidemment, vous êtes au milieu des fleurs. Évidemment, ça sent bon la rose. Évidemment, voilà. Mais est-ce que ça vous a plu ?
J'ai adoré. Beaucoup de suspense et ça se finit très bien.
J'adore Catherine Frou déjà à la base.
J'aime beaucoup Catherine Frou.
Catherine Frou, extraordinaire.
C'est plein de romantisme. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai eu les larmes aux yeux, même à la fin un peu.
C'est un très beau film avec plein de choses sur les fleurs que je ne connaissais pas. Et très joli film, très poétique, léger, mais sympathique.
Mais je n'ai pas aimé. C'est un film sur les fleurs, on voit que des fleurs.
Ça m'a arraché les larmes à la fin. Ces jeunes qui se recyclent et qui sont nature, c'est extraordinaire. Surtout le petit jeune qui propose de planter de la beuh à la place des roses.
Il y a des moments où on rit, puis il y a des moments où on est émotionné.
Voilà, on rit et on est émotionné. J'étais sûr que le public allait bien aimer ce film, mis à part une petite dame qui a une réserve. Et je suis sûr que la critique va mettre plein de réserves, alors qu'il ne faudrait pas. Fabrice.
Vous m'avez reconnu dans le micro-trottoir.
C'était vous la réserve ?
C'est moi le monsieur qui ai pleuré à la fin.
Ah voilà.
Non, ouais. C'est pas du tout moi, mais je vous avoue, j'ai pleuré,
oui,
j'ai écrasé ma larme.
Non, mais
la
c'est
fin.
Un film facile, alors, mais qui marche bien.
On est réellement dans le produit super balisé. Il y a Catherine Frou pour amener le public. On est dans un feel-good movie. Il y a tous les codes du feel-good movie. Il y a des histoires de roses qui sont très belles. Moi, je sentais la rose dans la salle de projection quand je l'ai vue. Et dans cet archétype extrêmement normé, moi, je trouve que le film est très, 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 très bien. J'ai fonctionné du début à la fin. Je trouve que Catherine Frou arrive à tout jouer et à tout jouer extrêmement bien. Elle a à côté d'elle un jeune acteur qui est rappeur, Nella Omerta, je crois. Je ne sais pas si j'écorche pas son nom, qui est une vraie révélation parce qu'il a une vraie présence et... Ce couple-là fonctionne vraiment bien. Alors, voilà, c'est tout balisé, c'est tout traditionnel, mais ça fonctionne. Et moi, quand le cinéma fonctionne, je dis oui.
Marilyn, oula, j'aime pas ce regard.
C'est un beau bouquet, non ?
Pas du tout. C'est pas désagréable. mais effectivement, on sait exactement où ça va, on sait comment ça va y aller.
Et alors,
oui,
et alors
non, mais je l'ai vu, j'ai Marvel pas passé aussi, un mauvais moment, mais je l'ai très très vite oublié, hein, clairement.
Ah,
après, il y a une dame, je crois, dans le micro-trottoir qui disait qu'elle avait trouvé ça bien par rapport à ce qu'on apprenait sur les fleurs, l'hybridation. Et effectivement, je trouve que l'environnement, le contexte du film est hyper intéressant et que finalement, c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant et de plus original, c'est le contexte. Une fois que j'ai dit ça, voilà, c'est une petite chose, mignonnette. Catherine Frou, effectivement, a fait le job et c'est très malin de l'avoir pris parce qu'effectivement, elle a ce don de faire passer du rire aux larmes en à peu près une fraction de seconde. Voilà, donc c'est mignon.
Bon, voilà. Moi je souscris à monsieur Fabrice Leclerc,
non,
et je vous encourage.
Oh bah ça va, j'ai pas été méchant.
Non, mais c'est juste du plaisir de base.
Et surtout, on
cinéma.
Sait ce qu'on va voir.
On sait ce qu'on va voir.
Et on en a
ça, on sait bien.
Pour notre
mais
argent.
Souvent, dans des films comme ça, on est extrêmement déçus parce que c'est les grosses ficelles. Là, au moins, ça a été fait.
Pas finaux non
ça
plus,
a été
Fabrice.
Fait avec intelligence et tendresse.
La fine fleur de Pierre Pinault. On a aussi parlé de My Zoé et de Julie Delpy, de Teddy, de Ludovic et Zoran Boukherma et de Président d'Anne Fontaine, voilà une belle offre. C'est encore la fête du cinéma, les places sont pas chères, donc profitez-en, allez découvrir tous ces films en salle. Merci beaucoup, Marie-Lyne Le Tertre de Madame Figaro, Fabrice Leclerc de Paris Match.
Merci à vous.
Merci.
On se retrouvera, les amis, la semaine prochaine depuis le Festival de Cannes pour parler des films qu'on a vus à Cannes et qui sortent en salle. C'est important, donc, que vous pourrez aller voir. On parlera aussi des scandales autour de Cannes. Enfin voilà, on fera une émission spéciale depuis Cannes. D'ici là, vous n'hésitez pas à aller nous écouter ou nous réécouter en podcast. Club, qui est une émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, 14h-15h, samedi, sur Europe 1. Europe 1.